Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hello, je suis Mélanie Wanga. Alors je sais pas vous, mais moi je me demande assez souvent si l'emprise démesurée que les réseaux sociaux ont sur nos vies ne serait pas devenue vraiment problématique. Personnellement, quand je vais bien et que je vis des choses cool, j'ai tendance à poster des photos sur les réseaux, paradoxalement pour en garder des souvenirs supplémentaires et les partager avec le monde entier. Que ce soit des voyages, la découverte d'un café sympa ou une soirée entre amis, ça semble aller de soi. C'est quand je vais moins bien, en revanche, que les choses se compliquent. J'ai pas nécessairement envie de poster quoi que ce soit, et je me rabats sur le contenu que les autres mettent en ligne. Et là, je vis leur moment de joie comme une attaque personnelle envers moi. Et je ne suis pas la seule. Tant dans la réception des images et des messages que dans leur partage, de nombreuses études réalisées ces dernières années démontrent qu'Instagram, utilisé trop intensément, nuit à l'estime de soi et entraîne des symptômes dépressifs, ainsi qu'une forme d'addiction. D'ailleurs, une esthétique du réseau s'est développée. Mais si, vous savez, les couleurs saturées, les paysages de rêve, décors citadins, intérieurs minimalistes, des corps et des visages parfaits, toujours souriants, toujours entourés de vêtements et de produits luxueux. L'essence des années 2010 sur Instagram, c'est ça. Des carrières s'y créent aussi sur Instagram. Photographes, modèles, stars, mais surtout influenceurs et influenceuses. Une activité qui est devenue un véritable métier et qui peut rapporter gros. La recette pour devenir influenceur, eh bien écoutez, c'est assez simple. Il suffit d'amasser des abonnés, grâce à vos posts et à vos talents, et ensuite de vendre aux marques votre influence sur ces abonnés. Jusqu'ici, pourquoi pas? Mais le problème, c'est que ces dernières années, une bulle de l'influence s'est créée. La course aux abonnés et à l'engagement, le like, est toujours plus effrénée, quitte à tomber dans la tricherie et le mensonge. Et sur les réseaux sociaux, tromper son monde, c'est très, voire trop facile. Se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas, c'était le thème de notre épisode d'hier qui racontait l'histoire de l'arnaqueuse Anna Delvey, une jeune femme qui avait endossé pendant plusieurs années le rôle d'une héritière richissime. Aujourd'hui, on va parler d'un autre type d'arnaque, celle des instagrammeuses influenceuses qui photoshopent leur vie et vivent dans le mensonge pour le profit. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Il y a quelques années, en 2015, l'actrice espagnole Anna Allen postait des photos de son invitation aux Oscars et de son passage sur le tapis rouge. Mais elle est rapidement démasquée par les internautes. Son invitation est celle de l'actrice de Black Panther, Lupita Nyong'o, et sa robe est celle de l'actrice Keira Knightley, avec sa propre tête photoshopée sur celle de l'actrice. Et puis, il y a la youtubeuse Gabi Anna, qui, sous forme d'expérience sociale, s'est prise en photo sur son balcon et dans son appartement, avant de photoshopper les décors du festival de musique californien Coachella, le rendez-vous printanier annuel des stars. Alors son public n'y a vu que du feu, ce qui ne l'a pas empêché de dévoiler la supercherie dans une vidéo devenue virale. La journaliste Mélanie Mendelevitch s'est penchée sur le sujet dans un article de l'Obs assez repris. Nous l'avons rencontrée pour lui demander de nous expliquer comment on fait pour faire croire qu'on est allé à Coachella.
Dans le cas de Gabi Anna, elle a pris des photos d'elle, comme si moi, là, je prenais une photo de moi dans mon salon allongé sur un canapé. Et grâce à Photoshop, elle a transvasé les décors de Coachella, de la grande roue qu'on connaît tous de la scène, qu'elle a mis en fond de ses photos. Et apparemment, c'était plutôt bien fait, puisque personne s'est aperçu de la supercherie. C'est quand même assez drôle d'aller jusque-là et de le révéler elle-même. Je trouve que elle a bien réussi son coup. Elle a fait un vrai buzz, pour le coup. Et c'est ce qu'on dit dans l'article sur un des témoignages d'une fille qui a longtemps travaillé au contact d'influenceurs pour une agence spécialisée, qui explique que c'est très courant, en fait, que certains influenceurs dont elle s'occupait allaient prendre avec la localisation des images de palaces parisiens et prétendaient y être alors qu'ils étaient au fond de leur lit. Enfin, c'est assez dingue d'en arriver là, en vrai.
Dans son article, la journaliste postule qu'Instagram est devenu le royaume du fake. Les stratagèmes adoptés par les pseudo-influenceurs et influenceuses pour faire croire à un mode de vie opulent virent parfois au burlesque, mais ça marche, c'est ça le pire.
J'ai observé pas mal de phénomènes, isolée entre les mecs qui louent une Ferrari pour un mariage et qui se photographient sur Insta, les influenceurs qui posent des fausses questions aussi en disant « vous êtes très nombreux à m'avoir demandé la marque de ma robe » alors que a priori personne ne leur a demandé. Tous ces petits stratagèmes un peu isolés de fakeness, si on peut dire, et de mise en scène de leur propre vie et de leur propre business. C'est des choses qui m'intéressaient et donc j'ai décidé d'en faire un article global.
Comment ça marche ces arnaques à l'influence un peu quelle est un peu la théorie que vous développez dans votre article?
Alors le symptôme le plus connu, je dirais que c'est les faux followers et les faux likes qu'on commence quand même tous à connaître et à identifier parfois, parce que quand on voit quelqu'un qui a 1 million de followers et qui a très peu d'engagement, vraiment très peu, à un point que c'est suspect, on commence tous quand même un peu à se rendre compte de ce qu'il y a derrière. À la base, voilà, c'est parti de ça. L'actu aussi, avec cette blogueuse, enfin cette instagrammeuse Gabi Hanna, qui a monté en épingle sa présence à Coachella et qui l'a carrément dit elle-même sur Instagram, ce qui lui a valu d'ailleurs énormément de followers, c'est ce qu'on dit dans l'article, c'est assez ironique. L'actu, cette œuvre d'art contemporain qu'on mentionne aussi dans l'article, où les influenceurs vont se prendre en photo pour faire croire qu'ils sont dans un jet, le jet en Russie qui reste toujours au sol. Il y a énormément, ça prend énormément de visage, cette mise en scène d'Instagram. Donc concrètement, je dirais que ça part des faux followers pour se créer une fausse communauté au départ. Et puis ensuite, il faut bien assurer le spectacle pour les gens qui suivent et qui tombent dans le panneau et donner à voir une existence qui est plus prestigieuse que ce qu'elle est en réalité.
Qu'est-ce que ça dit de notre société, en fait, le fait qu'on se soit tous un peu jetés à corps perdu dans ce miroir aux alouettes qu'est Instagram?
On est évidemment dans une société de plus en plus narcissique et où chacun fait sa propre promo, je pense que c'est clair. Et chacun, à notre propre échelle, on le fait. On va pas se mentir, on met les selfies les plus flatteurs de nous-mêmes. Et même si au moment où on les poste, on se réveille et qu'on a la tête à l'envers. Quand on va à un super concert, on va le filmer dans nos stories pour que tout le monde voit qu'on est à l'endroit cool du moment. Je pense qu'il y a une espèce de self-promotion qui s'étend absolument à tout le monde, même aux gens dont c'est pas le métier.
Qu'est-ce qu'on obtient comme bénéfice quand on triche comme ça sur Instagram?
Alors au niveau des influenceurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils en retirent des contreparties financières. Comme je le développais dans l'article, plus la communauté est importante, plus les marques vont s'intéresser à eux, plus les marques vont leur proposer des partenariats parfois assez juteux, sans forcément prendre le temps de vérifier si la communauté est authentique, si y a un vrai engagement derrière. Ils en retirent en premier lieu de la popularité sur les réseaux sociaux et évidemment après de l'argent.
Pourquoi les marques entrent dans ce petit jeu? Parce que si nous on commence à s'apercevoir que certains influenceurs ne sont pas nets, je pense que les marques sont aussi au courant. Donc est-ce qu'il y aurait une relation de cause à effet?
Alors déjà nous on est journalistes. Je pense que même les gens qui sont pas journalistes s'en rendent compte. C'est pour ça que ce genre de sujet marche très bien et que ça fait énormément de vues et de clics et que beaucoup de lecteurs s'y intéressent parce que c'est des sujets qui intéressent tout le monde et que personne n'est dupe en général. Je pense, pour être aussi en rapport, en contact avec pas mal de directeurs marketing et d'attachés de presse de marque de par mon boulot, que les marques, elles sont dans une espèce de course effrénée à la visibilité. Et qu'elles se disent on sait peut-être que c'est fake, on sait peut-être qu'on n'en tirera pas forcément toutes les ventes qu'on espère, mais nos concurrents le font, donc il faut qu'on prenne le train en marche. Moi, c'est le discours que j'entends en coulisses. Ils sont un peu perdus. J'ai l'impression que les marques sont un peu perdues face à ce phénomène digital qui a gonflé d'un coup. Elles veulent être dans le game des influenceurs et en bénéficier, être visibles à tout prix. Et elles n'ont pas forcément toujours les outils ni la connaissance des réseaux sociaux pour se rendre compte des supercheries. Moi, je vois quand même parfois des marques de luxe et j'en fais la remarque aux attachés de presse ou aux directeurs marketing que je connais qui ont une stratégie que je trouve très étrange. J'ai absolument rien contre les personnes de télé-réalité, même si elles me font beaucoup rire. Mais quand on voit qu'une marque de prestige s'attache les services d'une personne de télé-réalité dont, a priori, l'audience n'aura absolument pas les moyens d'accéder aux produits qui sont mis en avant, dans le partenariat, j'ai du mal à comprendre la stratégie. Mais je pense que les marques se disent, cette personne a 1 million de followers, on va être vu par 1 million de personnes et c'est tout ce qui compte. C'est un peu largué, je pense, tout simplement.
Oui, parce que c'est vrai que les influenceurs réels, ceux qui ont vraiment une communauté, en termes d'impact, quand ils ont un partenariat, c'est quand même assez fort. Je ne sais pas si vous pouvez un peu nous éclairer sur ça.
J'en ai fait d'ailleurs un autre sujet pour Vice qui était beaucoup plus décalé, beaucoup moins sérieux. Mais on a tous vu des produits de beauté promus par des personnes de télé-réalité matraqués toute la journée par 10, 15, 20 personnes qui prétendent tout en même temps que ce produit est génial et qu'il a changé leur vie. Et même nous qui sommes avertis, qui avons du recul, on finit par se poser la question, ah, c'est peut-être bien, qu'est-ce que c'est que ça ? On finit par même regarder, s'intéresser à ce produit simplement parce qu'on nous l'a matraqué toute la journée. Donc je pense qu'à terme, surtout sur une audience beaucoup plus jeune, moi j'ai pas mal observé les comptes des influenceurs qui marchent, et je vois dans les commentaires des personnes très jeunes qui sont parfois même pas majeures, qui mettent en commentaire « Ah bah si tu dis que c'est bien, je vais l'acheter avec mon argent de poche, etc. » Je trouve que c'est un peu contre ça qu'il faudrait peut-être lutter, faire un peu plus d'information, je dirais pas jusqu'au mot de prévention, parce que c'est pas très grave finalement de se faire naquer sur une crème, même si c'est pas très honnête et pas très glorieux pour les personnes qui le font. Mais je trouve que c'est bien d'informer les plus jeunes sur le fait déjà que c'est des partenariats qui sont rémunérés, que c'est pas des produits que ces personnes apprécient particulièrement dans la plupart des cas, même s'il y en a qui partagent leur coup de cœur, mais ils sont minoritaires. Oui, c'est de la visibilité, mais après, voilà, faut se poser la question d'après, quoi.
À votre avis, pour la suite, qu'est-ce que ça va être la nouvelle itération des influenceurs? Parce que là, on a quand même l'impression d'une bulle qui est en train de gonfler, qui à un moment va peut-être exploser, et qu'est-ce qui va rester?
Alors, il y a plusieurs discours qui s'affrontent. On prédit de plus en plus la fin des influenceurs tels qu'on les connaît aujourd'hui. Je pense que ça finira par arriver. À part pour ceux qui sont tellement en place que de toute façon ils sont pas menacés parce qu'ils ont une telle influence que ça durera encore longtemps. Mais effectivement, on assiste à beaucoup de discours qui prédisent un peu la fin de ce modèle-là. Et y a pas mal de marques qui sont un peu avant-gardistes et qui voient un peu les limites des influenceurs classiques, qui misent de plus en plus sur des micro-influenceurs qui ont peut-être que 15 000 ou 8 000 même followers, mais qui sont vraiment ultra intéressé sur un sujet précis, des sujets de niche en général, je sais pas, de la tech, des trucs comme ça. Et donc, pour le coup, c'est peut-être des gens qui sont uniquement suivis par 8 000 ou 10 000 personnes, mais il s'agit de 10 000 personnes qui sont des cibles potentielles énormes et qui vont être potentiellement de vrais acheteurs, contrairement aux personnes qui sont suivies par 2 millions de personnes et qu'il n'y a même pas 1% qui va acheter. Donc il y a ce système de micro-influenceurs qui se profile de plus en plus. Je ne sais pas, on verra, l'avenir nous le dira pour le reste.
Alors c'est clair, c'est pas parce que vous voyez quelqu'un dans un jet privé sur Instagram que l'avion va vraiment décoller. Mais on peut se poser une question encore plus en amont. Comment les influenceurs et les influenceuses, aussi fauchés soient-ils, obtiennent-ils leurs abonnés? Vincent Manilève, auteur du livre « YouTube, derrière les écrans », décrypte pour nous l'envers du décor. Et ce qui permet aux influenceurs et aux influenceuses de sécuriser des contrats avec des marques. Spoiler, ce n'est pas nécessairement par des moyens honnêtes là non plus.
À une époque, fut un temps, sur Internet, 5 ans, c'est une éternité en fait, donc faut se replacer un peu dans le contexte. Mais au début, c'est vrai que c'était assez facile, via des sites, d'acheter des abonnés qui étaient des bots en fait, hein, des faux comptes créés comme ça. Donc vous pouvez acheter par pack de 5 000, 10 000, c'était pas super cher. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on voyait assez vite que c'était des comptes qui n'étaient pas forcément en France pour un compte français, qui était peut-être situé en Russie, au Brésil, en Inde, dans d'autres types de pays, qui avaient un taux d'engagement très faible, c'est-à-dire que c'était des comptes qui réagissaient pas au contenu publié et ils mettaient pas de like ou ce genre de choses. Et donc, ça faisait une vraie différence. On voit le nombre d'abonnés de quelqu'un qui a l'air assez dingue et au final, qu'il a que quelques centaines, milliers de likes sous ses photos. Donc, il y a eu, je pense, quand même une vraie prise de conscience ces dernières années, à la fois de la part des influenceurs dans leur majorité et des plateformes, qui fait que maintenant, c'est plus difficile de gruger ou de faire croire de manière fausse qu'on est influent, etc. C'est encore possible, il y a des petites magouilles en achetant des petits packs d'abonnés de temps en temps pour pas que ça paraisse trop important d'un coup, qu'on, du jour au lendemain, on gagne pas 30 000 abonnés sans qu'on sache d'où ils viennent. Mais globalement, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même du mieux, en tout cas, même s'il y a encore... c'est comme dans la société, il n'y a pas que des gens très, toujours bien intentionnés sur les réseaux sociaux.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces fermes à clics, le fonctionnement, est-ce qu'on sait comment ça marche et qui profite de ce genre de choses et qui se fait de l'argent sur ça?
Quand on dit ferme à clic, enfin, je dirais c'est peut-être plus des entreprises qui sont situées à l'étranger, souvent dans des pays où on peut payer de la main d'œuvre pas chère pour générer du trafic facilement sur des contenus en ligne, des abonnés de manière fictive. Donc, à qui ça profite, bah, peut-être à quelques personnes qui ont lancé un peu ces boîtes-là. Pas aux gens qui font un petit peu la main d'œuvre pour tout ça. Ça profite peut-être à ces Instagrammeurs, ces influenceurs qui alimentent de fausses communautés parce que eux, après, ils peuvent surtout aller voir les marques, leur dire regardez, j'ai tant d'abonnés, c'est pas rien. Si vous faites un placement de produit sur mon profil, ça va être vu par tant de personnes. Mais maintenant, les agences et les marques ont, comme je disais, tendance à vraiment bien analyser et à voir et à faire la différence entre un compte qui ment sur ses statistiques. Parce qu'on peut accéder directement aux statistiques Instagram, c'est-à-dire qu'on peut demander à un influenceur de partager ces données-là et donc de se rendre compte à la fois de l'importance en termes de nombre, en termes de géographie, ce genre de choses, d'âge, de classe de personnes. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais pas si ça profite encore à beaucoup de monde de mentir à ce niveau-là.
D'ailleurs, il y a eu l'exemple d'une influenceuse qui s'appelle Harry, je crois, qui a 2 millions d'abonnés sur Instagram et qui a fait un post en disant qu'elle n'avait pas réussi à vendre le stock de sa nouvelle collection de t-shirts qu'elle avait lancée. Elle devait en vendre 36 et elle n'avait pas réussi à en vendre 36. Mmh. Je pense qu'il y a vraiment cette prise de conscience qui est en train de se faire, mais on peut se demander, parce que vous avez l'air de dire que les marques sont au courant et font des analyses, mais globalement, les influenceurs, quand même, continuent à avoir des contrats en fonction de leurs chiffres et peut-être même pas nécessairement en fonction de leur engagement. Donc, est-ce que ça peut s'acheter, l'engagement, par exemple?
Alors, je pense qu'il y a deux catégories. Si on regarde au niveau des marques, des agences, je pense surtout... si c'est des marques qui sont pas forcément bien accompagnées, qui comprennent pas encore complètement les codes et à qui on va dire « Ah, regardez, telle personne a 2 millions d'abonnés, c'est dingue, faut absolument faire un placement de produit avec elle. » Mais si derrière, c'est une communauté qui est déjà moins engagée, qui est qui fait moins attention au poste de la personne, qui les suit des fois aussi juste pour hater, hein, pour critiquer, ça aussi c'est important à prendre en compte, et ben on peut faire un placement de produit sur le profil de quelqu'un qui a 2 millions d'abonnés s'il y a seulement quelques milliers de personnes qui le suivent attentivement et qui en plus parmi ces personnes-là vont pas tous être convertis en acheteurs potentiels, effectivement, c'est beaucoup moins intéressant. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de marques qui se tournent vers des micro-influenceurs, nano-influenceurs même, parce que c'est des communautés où l'influenceur a le temps de consacrer plus de temps, justement, à ses abonnés, de leur montrer plus d'attention, etc. Et donc, d'entretenir une proximité plus importante et donc d'avoir plus leur confiance. Et c'est vrai qu'il y a eu un balancement un petit peu ces dernières années-là où les gros influenceurs, c'était plus devenus les cibles les plus intéressantes pour les marques. Il y avait même un article du New York Times qui parlait de ces concepts de nano-influenceurs où votre tante, parce qu'elle vit dans telle ville, elle a 300 abonnés, qui a telle boutique de bijoux dans la ville, potentiellement, si elle fait une petite pub pour ça, ça peut marcher. S'il y a des gens qui vivent dans la même ville, ça peut rapporter quelque chose aussi à cette boutique-là. Donc voilà là-dessus. Et est-ce que ça s'achète, l'impact pas forcément. Je pense que là, on a suffisamment eu de cas d'école, comme vous venez de le dire, de fail, un peu d'échec marketing comme ça. Je pense que ça sert de leçon. Et maintenant, le tout, c'est de trouver l'équilibre entre Des profils trop gros, devenus trop importants, qui sont devenus des hommes et des femmes d'affaires, et qui donc perdent une forme d'authenticité, justement, vis-à-vis de leurs abonnés, et des gens qui ont l'air encore d'être comme tout le monde, en fait. C'est marrant parce qu'en fait, les influenceurs, les gros influenceurs, maintenant, on les voit vraiment comme des stars de journaux People, et on a du mal à se sentir proche d'eux parce qu'ils font tellement des voyages extraordinaires, etc. Alors qu'un influenceur qui en a un peu moins, qui paraît plus authentique, qui dit « Ah, week-end chez mes parents, regardez, je suis en pyjama, je fais rien de la journée, je regarde Netflix », ça va plus toucher, on va avoir envie de lui faire plus confiance. Donc c'est ça, je pense, aujourd'hui, qui est vraiment intéressant, c'est ce retour à une forme d'authenticité pour les marques et pour les influenceurs.
Est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de changement de paradigme en termes de ce qui fait vendre, notamment sur Instagram, qui est un peu... Là, on sort d'une décennie où ce qui faisait vendre, vraiment, c'était le glamour, c'était montrer, comme vous disiez, qu'on part en vacances, qu'on a un appart super, que les enfants sont magnifiques et qu'on a plein de vêtements de marque. Est-ce que maintenant, on passe à peut-être une esthétique différente, à quelque chose de différent, et est-ce qu'on se dirige vers quelque chose de peut-être un peu plus authentique, comme vous disiez?
Oui, je pense. Après, est-ce qu'il faut toujours faire la part des choses entre ce qui se passe aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, et ce qui se passe en France, hein. En France, on a toujours tendance à avoir un petit peu de retard par rapport à ces tendances-là, ces mouvances-là. Mais effectivement, on l'a vu, il y a eu des articles qui commencent à en parler sur ces millennials, entre guillemets, pour mettre beaucoup de guillemets même, qui cultivent une forme d'esthétique beaucoup plus simpliste, sans forcément mettre de filtre, sans forcément toujours bien s'habiller. Y a des exemples de photos comme ça où ils peuvent être en peignoir sorti de bain, très mal coiffé, et poser un pied sur le lavabo et faire une espèce de photo dans le miroir, où en soi, c'est pas du tout... c'est pas l'esthétique d'un magazine de beauté du tout, mais ça marche aussi très bien parce qu'il y a cette proximité qu'on retrouve avec le public qu'il y avait au début sur Internet et sur les réseaux sociaux, et ça devient de plus en plus intéressant, je pense, pour les marques. Et par exemple, je pense à Netflix. Netflix qui travaille beaucoup avec des influenceurs. Netflix, c'est un produit culturel qui touche énormément de personnes, qui les concernent dans leur quotidien. Et eux vont avoir vraiment quelque chose à jouer, justement, en allant travailler avec des petits influenceurs qui, eux, vont utiliser ça dans leur quotidien. Ça va parler aux gens, alors que si on leur fait regarder tel produit de luxe, machin et tout, les gens, ils n'ont pas forcément toujours les moyens d'acheter ça. Ça ne va pas forcément leur parler, parce que ce n'est pas leur quotidien. Donc, à la fois de la part... et même Decathlon. Decathlon, il y a un très bon exemple. Il n'y a pas longtemps, c'est un compte Twitter qui s'appelle Rebeu Déter, donc Billy de son petit prénom. Il a posé pour un photoshoot avec Decathlon, avec des joggings à l'ancienne. Et Decathlon, il y a quelques années, on n'aurait pas forcément dit « Ah, c'est cool, Decathlon et tout », alors que maintenant, il y a un vrai retour de hype de Decathlon avec les temps de Quechua qu'on voit dans toute la culture rap aussi et tout, avec les joggings. Et il y a ce truc-là, c'est un truc simple, Decathlon, c'est une marque accessible, etc. Et c'est vraiment mis en avant par les gens, les cool kids d'Internet, quoi. Donc, il y a ce retour-là aussi, à la fois des marques plus simples et des influenceurs qui retrouvent des choses un peu plus simplistes dans leur vie et accessibles pour leurs abonnés.
Vous l'avez compris, les années 2010 se terminent et la vague des influenceurs clinquants avec elle. Alors même s'ils ne disparaîtront sûrement pas de sitôt, il est probable que le public et les marques deviennent à terme moins crédules face aux moyens que ces influenceurs mettent en place. Retouches photos, jets privés, location de vêtements d'haute couture. Il faudra alors trouver une autre voie pour devenir riche et célèbre. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lauren Bess et réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. programmeb@binge.audio pour nous écrire. Et à vendredi pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Hey marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.